il ne faut absolument pas visiter Paris avec moi parce que, ou si je vois, par exemple, hier, un truc tout, tout bête, j'étais dans le bus, je sais plus quel bus c'était, j'allais à Jussieu et je passe devant, vers le jardin des plantes et plein de commerces dans le coin portent les noms de cuviers. Et donc là, battement de cœur tout de suite, voilà. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui, c'est ça Paris pour moi. Alors ça ne m'énerve pas. Je suis assez bizarre, ça me remplit de joie parce que je me dis, mon Dieu, encore un sujet de thèse, ou encore, là, il va falloir, ou encore un artiste, un jeune artiste afrodescendant à qui on devra confier l'érection de la statue de Sergeant Bartman en remplacement de cette odieuse.
Bonjour tout le monde, je suis Kevin Donat et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Je suis guide conférencier et depuis 2013, j'anime les balades du Paris Noir. Un ensemble de circuits qui retrace les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Une façon différente d'envisager la présence afro-descendante dans l'Hexagone à travers leurs accomplissements, leurs rencontres et leurs doutes. Entre novembre et fin 2020, j'ai enregistré une série d'entretiens avec des hommes et des femmes au parcours remarquable. Ils et elles ont joué le jeu, répondu à mes questions étranges, suivi mes intuitions bizarres qui se transforment en obsessions. Pour l'instant, tout se fait en indépendant et à distance. Le son de ma voix n'est donc pas toujours optimal, mais je dirais que c'est ce qui ajoute un côté intime aux épisodes. On a parfois l'impression d'écouter une conversation Skype entre deux potes. Comme je l'ai dit en première partie, notre conversation avec Mam Fatou a été si passionnante que j'ai décidé d'en faire un double épisode. Du coup, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire. Ici, j'interroge Mam Fatou sur Black History Month, mais aussi la place centrale qu'occupent les femmes dans les mouvements noirs. Et puis je reviens sur une critique souvent adressée aux études postcoloniales, ce champ d'études insisterait trop sur les sujets d'identité au détriment des questions de classe. Dans l'extrait que vous avez entendu en ouverture, Mam Fatou mentionne Georges Cuvier et Sergeant Bartman. Georges Cuvier était un scientifique français du 19e siècle qui a théorisé sur l'inégalité des races. Et Sergeant Bartman, plus connue sous le nom de la Vénus aux Antotes, était une femme noire venue d'Afrique du Sud. Elle eut une vie courte et tragique. Dotée d'une morphologie peu commune, une hypertrophie des hanches et des fesses, elle arrive en Europe en 1800, à l'âge de 12 ans, sera exhibée puis prostituée de force et mourra d'une pneumonie à Paris en 1815. Elle n'avait pas encore 30 ans. Georges Cuvier a mené l'autopsie puis la dissection de Sergeant. Enfin, il a fait faire un moulage de son corps, le tout au nom de la science et du progrès. Ce moulage sera exposé dans la galerie d'anatomie du Jardin des Plantes, puis au musée de l'Homme jusqu'en 2002, date à laquelle sa dépouille est rendue à l'Afrique du Sud. La rue, elle garde le nom de Cuvier. Elle se trouve dans le 5e arrondissement, près du Jardin des Plantes. Il y a aussi une fontaine Cuvier, rue Linné, également dans le 5e. C'est une histoire macabre, mais voilà, il fallait vous donner un peu de contexte. Vous devez écouter cette deuxième partie, car Mam Fatou questionne les noms de rues, les statues, les fresques, avec justesse et sans concession. Bonne écoute, et je reviens en fin d'épisode pour les recommandations.
L'épisode sortira en février. En février, on va célébrer le BHM, Black History Month, le mois de l'histoire noire. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que ça va compter en 2021 ?
Bah, pour moi, le Black History Month, ça fait partie exactement de ces mêmes mécanismes comme l'affirmative action. C'est se dire, on a été dans une société qui a construit une certaine histoire et cette histoire-là, elle a des conséquences matérielles sur la vie d'une portion de notre population, ben les Noirs aux États-Unis par exemple, et de dire voilà on va essayer de trouver des moyens, mais le Black History Month tout seul ne suffit pas, l'affirmative action tout seul ne suffit pas. On voit qu'il y a plusieurs moyens qui vont être, on parle de defund the police, on parle d'une refonte des mécanismes judiciaires, c'est toutes ces choses là qui devront venir ensemble pour qu'on puisse un jour même espérer atteindre l'égalité. Je ne sais pas si. Mais donc voilà, pour moi, le Black History Month, c'est ça. C'est cette histoire des mois cette histoire des de cette semaine, excuse-moi, de l'histoire des Noirs qui est développée, je crois que c'est en 1926 par l'historien noir Carter Woodson, et Woodson, lorsqu'il le fait, il se dit, moi j'ai envie de faire connaître l'histoire afro-américaine, que ce ne soit pas seulement une histoire de souffrance, d'esclavage, une histoire de rien du tout, mais de montrer la manière dont les Afro-Américains ont pu contribuer à l'histoire de ce pays et la manière dont leurs contributions ont été invisibilisées. Et à la fin des années 70, avec le mouvement des droits civiques, ça devient tout un mois, au mois de février aux États-Unis et au Canada. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur le fait que, bah, comme Affirmative Action, comme tout ce qui a pu se passer après la mort de George Floyd, que cette institution-là, aujourd'hui, ait été un peu récupérée par les grands, même par Hollywood ou par les, grands, les grandes compagnies. Mais aux États-Unis, quoi qu'on en dise, qu'on le critique ou pas, c'est une institution civique nationale. Tout le mois de février, tous les enfants des écoles vont apprendre des choses tous les jours sur des figures noires. Et moi, je trouve qu'on a besoin de quelque chose comme ça en France. Je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives. Il y a le CRAN qui a essayé de faire un truc. Je pense que ça n'avait pas marché. Il y a Mabula Soumaoro qui avait lancé en 2012-2013 la Black History Month, mais je pense que c'était au mois de mai. Et je pense que la difficulté à ce que ça prenne en France, bah, ça tient aussi du fait que il n'y a pas vraiment de communauté noire en France. En France, mais il n'y a pas de communauté qui ait une histoire aussi cohérente qu'on pourrait le voir aux États-Unis ou même, par exemple, la situation des Noirs en Suède ou même des Noirs en Allemagne qui ont une histoire assez. Donc voilà, moi je pense qu'il y a ça. Mais cette histoire, on est en train de l'écrire. Il se passe, moi je fais partie d'une génération où nos parents, ils avaient encore l'attache nationale, ils parlaient. Il traînait entre Sénégalais, les Ivoiriens traînaient avec des Ivoiriens, les Maliens. Et puis nous, je pense qu'on est la première génération vraiment née au début des années 80, où on s'est retrouvés, quand on traînait entre Noirs, on était des Renois. Donc c'était ces groupes, on en parle souvent avec Mabula, ces groupes multi-ethniques de Martiniquais, Congolais, et on s'est reconnus. Et on a, pour moi, c'est ça d'être afro-français, c'est d'avoir réussi à faire cette cohésion entre le fait d'être français, d'être né, d'avoir grandi dans ce pays, et d'avoir une culture qui se soit enrichie des apports de nos amis, moi, de mes amis ivoiriennes, maliennes, notre langue, notre manière de parler, notre manière de nous saper, de la musique guadeloupéenne, du zouk, de la compa, et puis les États-Unis nous ont fait rêver, la Jamaïque nous a fait rêver, et tout ça, pour moi, c'est ça qui fait la culture afro-française qui commence à se développer. Donc oui, on a besoin de ça. D'autant plus que, je vais terminer sur ça, que nos contributions, notre histoire dans ce pays est absolument méconnue. Les gens ne savent pas pourquoi nous sommes ici. Les gens ne savent pas ce que nous avons pu contribuer au groupe national. Et donc, oui, des initiatives comme ça sont nécessaires. Mais on le sait, ces initiatives, elles doivent venir aussi de l'État, pas seulement des associations. Mais on peut se demander combien de temps on peut attendre lorsque notre État confond volontairement des initiatives comme ça avec du communautarisme, du séparatisme ou de l'anti-républicanisme, de l'anti-France. Donc la question est ouverte.
Ok. Justement, tu m'as fait la transition sur le concept de Afro-French. Mm-hmm. Comment réagissent les gens quand tu utilises le terme Afro-français ?
Aux États-Unis, ça passe parce que le fait, ce que j'appelle une identité en trait d'union, et quelque chose, même si c'est le pays qu'on sait, c'est le pays de Trump, de la suprématie blanche, etc. Le concept d'une identité en trait d'union est extrêmement compris. Le moindre blanc du moindre coin de Virginie occidentale vous dira, moi je suis d'origine allemande, ou même si l'origine allemande remonte à 300 ans. Voilà. Donc le fait d'avoir une identité en mosaïque, une identité en fractal, est très compris aux États-Unis. Ici c'est un peu plus compliqué. Et je vois par exemple des fois sur les réseaux sociaux quand je me prends qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont rien compris. Ils ont envie de. Ils font des calques sur les États-Unis. J'ai eu un député il y a un mois qui a dit mais afro-français, c'est peut-être le mot le plus vilain que j'ai jamais entendu. Et puis c'est un calque immonde sur les États-Unis, sur afro-américain. Et moi, dans ma tête, je dis mais en fait, les gens se sentent attaqués parce que la Constitution nous dit que l'identité française est une et indivisible. Il n'y a que deux catégories. Dans notre population, les Français, les citoyens et les étrangers. Et une fois qu'on devient français, ben on doit laisser à la porte la part de son identité ou de soi qui n'est pas française. Et là, on va apprendre, c'est ce que Macron nous a dit hier, qu'est-ce que l'identité française. Donc, on se rend compte que de temps en temps, il faut relancer le débat parce que les gens sont en train de se perdre et ils perdent de vue qu'est-ce que c'est que d'être français. Donc, il va falloir redire aux gens quels sont les paramètres pour être français. Mais c'est complètement ridicule. On ne peut pas s'amputer. Moi, je suis afro-française parce que lorsque j'ai découvert le terme, j'ai joué avec plusieurs termes avant, afro-péenne, afro-machin, afro. Et pour moi, afro-française, ça me va parce que ça casse, d'abord juste visuellement, le mot casse cette injonction qui est une injonction mythique, qui est une injonction mensongère de l'unicité de la culture française. Il n'y a pas de culture unique. Les cultures évoluent. La France de 1820, ce n'est pas la France de 2020, ce ne sera pas la France de 2035. Donc, pourquoi tout le monde peut évoluer sauf nous? Et donc, visuellement, ça casse le fait de... Moi, j'aime bien ce trait d'union. Et puis, comme je le disais plus tôt, je ne dis pas sénégalo-française ou franco-sénégalaise parce que je me rends compte que mon africité ou ma part noire, c'est une part noire qui, bien sûr, est lourdement impactée par la culture sénégalaise de ma famille et le Sénégal, qui est un pays où j'ai passé une grande partie de mon enfance et de l'adolescence. Mais c'est ma culture noire me vient aussi de mes amis qui viennent d'autres parts de l'Afrique, d'autres parties de la diaspora. Je connais, je crois, plus de chanteurs antillais que de chanteurs sénégalais. Donc voilà, il y a pour moi, toutes ces choses-là, et j'en parle dans Marianne Noir en disant, ici en France, on grandit dans les années 90 avec cette honte d'être noir, parce que le noir est invisible à l'écran, et lorsqu'on le voit, ben, c'est le père dont parle Jacques Chirac, c'est les pères qui sont délogés de l'église Saint-Martin, ce sont les enfants qui meurent de faim en Éthiopie, et quand on va parler des noirs à l'école, ce sera la jungle, la savane, et nos mères, elles venaient à l'école, ben, elles sentaient l'encens, c'était pas la maman blonde, donc on grandit avec une idée du noir qui n'est pas très positive, et on se rend compte à l'adolescence qu'en fait, les Français aiment les Noirs, mais quand ils sont Américains, ils aiment Michael Jordan, ils aiment Michael Jackson. Donc on va essayer d'être comme les Américains, et il nous faudra, à la fin de la vingtaine, moi je parle de cette génération, j'ai 40 ans aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, être Noir aux États-Unis, c'est pas terrible, terrible. Mais on a été imprimé, on a eu le temps d'être imprégné de cette culture-là, du hip-hop, du R&B, blues, soul, etc. Et on va... Après avoir fait ce cheminement, moi je parle d'un cheminement qui est le mien, mais qui est aussi celui de beaucoup de personnes que je connais. Je me rappelle Maboula qui dit, voilà, je me suis découverte noire aux États-Unis. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc on n'est pas vraiment africain ou pas comme les parents le voudraient. On a rêvé d'être américain, d'être qu'un riz, mais en fait on n'est pas qu'un riz. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient. On revient à la maison. Et que les gens le veuillent ou non, la maison c'est ici. Donc, et on va revenir avec un sac rempli de toutes ces choses-là. Des éclats des Antilles, des éclats de la Jamaïque, des éclats des États-Unis, des éclats de toutes les tatas, les tontons qui viennent de Guadeloupe, qui viennent de Côte d'Ivoire, qui habitaient dans notre immeuble. Et ça, ça va faire notre culture noire. Et c'est l'afro de l'afro-francité. Donc voilà, moi je suis afro-française.
À ton avis, pourquoi les femmes sont-elles aussi centrales dans les mobilisations de 2020? Et puis pour tout ce qui concerne la question noire en général en France, les femmes jouent un rôle central. C'est le sentiment que j'ai eu par exemple en revoyant les Marianne Noir. Plus concrètement, moi, je m'en rends compte sur le terrain avec mes visites. Je fais pas de statistiques ethniques, mais trois quarts des demandes de visites viennent de femmes. Comment t'expliques ça?
Moi, je me suis posé beaucoup de fois la question. On me l'a posé plusieurs fois. Je sais que j'ai pris un ou deux week-ends où je me suis dit, et c'est très difficile, je vais vider mon cerveau de tout et je vais me pencher sur cette question et je n'ai pas vraiment de réponse. J'ai des pistes. J'ai des pistes en regardant mes cousins. J'ai des pistes en regardant. C'est dur d'être un homme noir en France. C'est dur d'être un homme noir en France. Et je me suis vraiment rendu compte en observant mes frères, mes cousins, sur plusieurs jours, qu'ils étaient presque consommés par des urgences physiques de survivre au jour le jour, vraiment. C'est une lecture vraiment très personnelle parce qu'elle est, ce n'est pas quelque chose d'une recherche scientifique ou quelque chose qui est basé sur une observation scientifique de plusieurs années, mais vraiment quelque chose d'assez intime, voilà, qu'ils sont consommés, presque consumés par ces préoccupations de survie, de pouvoir se déplacer dans l'espace public, et que ça prend une énergie absolument folle, et que peut-être, je le prends vraiment, nous aussi les filles, et je le dis vraiment, je ne fais pas de généralité, j'ai réfléchi par rapport à moi et aux hommes qui m'entourent vraiment dans mon premier cercle, et que peut-être nous aussi les filles, nous subissons ces pressions dans l'espace public, mais de manière différente, et d'une manière différente qui peut-être nous libère au moins, et ça c'est vraiment important, moi je tiens à insister sur ça, nous libère au moins de prime abord l'espace, un peu d'espace mental pour pouvoir être vocal sur ces sujets-là. Alors j'en ai beaucoup discuté avec des amis, il y en a qui me disent, ce sont les mêmes mécanismes qui font que les filles racisées s'en sortent mieux à l'école, parce que on le sait, même intentionnellement, même inconsciemment, ces survivances coloniales qui font que l'homme noir est vu comme, alors moi j'ai des petits cousins qui ont 11 ans, qui font 1m90, c'est très difficile quand un enfant de 1m80 fait des bêtises, de le voir comme un enfant de 11 ans, comparé au petit Thomas ou au petit, je ne sais pas, Noé, qui fait 1m40 à 11 ans et qui peut faire le bébé. Donc je pense qu'il y a toutes ces survivances-là qui peuvent expliquer pourquoi, voilà, on a une société qui est plus dure avec les hommes arabes, les hommes maghrébins, les hommes noirs, qu'elle est avec les femmes, au moins publiquement, de prime abord, et qui peut expliquer que peut-être, voilà, les femmes aient un peu plus d'espace mental pour s'exprimer sur l'espace public, mais je ne sais pas, ce sont des indices. Mais juste pour terminer sur ça, il y a une chose par contre sur laquelle moi j'insiste beaucoup, c'est le fait de, je le vois souvent dans le traitement des mouvements comme celui d'Assin, La vérité pour Adama, ou le mouvement de d'Amel Bentoussi, le fait de dire, ah oui, mais c'est la même chose pour le gay, c'est sa sœur. Ah mais les sœurs, c'est parce que les femmes, elles sont plus maternelles, il y a cet instinct maternel. Et cette romantisation de la cause des sœurs qui dépolitise véritablement le mouvement. Je pense que, voilà, il faut éviter de tomber dans ce piège, de dire, ben, les femmes, elles le font parce que c'est des femmes, elles ont cœur à protéger le groupe, et en faisant ça, on enlève vraiment le fait que, voilà, c'est des vraies questions politiques, c'est des vraies questions de projets politiques qui s'ouvrent même des fois sur des questions assez inattendues, comme la question, comme la question environnementale. On le voit avec La vérité pour Adama, qui disent, voilà, la colonisation, cette violence sur les corps, elle se fait aussi à travers une violence sur l'environnement, le fait que toutes les cités soient au bord des autoroutes, que les cités soient au bord de zones polluées, voilà. Donc voilà, mais sur la présence des femmes, je pense qu'il y a un travail, et puis si un de nos auditeurs nous entend et est intéressé par un mémoire de maîtrise ou une thèse, ça c'est un sujet à... sur lesquels il faudra se pencher, et de manière sérieuse, et pas juste avec des petits indices comme ça, comme j'ai pu les penser, mais voilà. Il y a un sujet de recherche.
Tu parlais de prendre la parole dans l'espace public. Moi, j'ai l'impression que les hommes noirs, ceux qui sont dans des positions importantes, visibles, vont avoir tendance à être beaucoup moins virulents. Enfin, virulents, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, véhément, direct, frontaux, comparé à des personnalités comme toi, comme Rokhaya Diallo et bien d'autres, Assa Traoré. À part les rappeurs, j'ai l'impression qu'en France, les rappeurs sont des noirs pas comme les autres, qui osent dire des choses. Tu vois, si on parle de la figure de Marianne, je peux pas m'empêcher de penser au rappeur Ateyaba qui dit Marianne, je l'attrape et je la coupe en deux.
Marianne, je l'attrape, je la coupe en deux, même si elle est une et indivisible, négro.
On pourrait pas imaginer une célébrité, un acteur connu en France dire quelque chose comme ça, alors que pour les rappeurs, ils osent le faire. Est-ce que ça t'évoque quelque chose?
Oui, mais et je trouve ça extrêmement intéressant lorsqu'on parle de... je trouve très bien que tu abordes cette question, parce que lorsqu'on parle de l'invisibilisation des hommes noirs, je pense qu'on a le fait de se dire, mais pourquoi on n'a pas un homme noir, un ingénieur ou un professeur, ou je ne sais pas, quelqu'un qui a réussi dans l'industrie, qui se prononce sur ces questions, alors qu'il y a des hommes noirs et des hommes maghrébins qui se prononcent sur ces questions depuis très longtemps et qui s'appellent des rappeurs, ou les personnes qui toutes ces personnes qui gravitent autour de la nébuleuse de l'univers du hip-hop en France, donc que ce soit les taggers, etc. Donc ces voix-là sont là. Il y a aussi les voix, et je vais revenir sur le hip-hop, il y a aussi les voix des écrivains qu'il ne faut pas oublier. Et quand je parle des détours, des stratégies, ça aussi, ce sont des détours. Ce sont des gens qui sont moins visibles sur l'espace public, mais il faut se poser aussi la question pourquoi ils sont moins visibles sur l'espace public. Moi, j'ai dans ma thèse, j'ai fait toute une étude sur, pour revenir à la littérature, comment est-ce qu'on crée du canon, justement, ce dont on parlait au début de ton podcast, et le fait qu'aujourd'hui, qu'on a des écrivains, alors je ne sais pas si on doit les appeler, il y a toujours un problème pour les dénommer, les écrivains de la seconde génération, de la troisième génération, on se demande combien de générations il faut pour devenir français, des écrivains de banlieue, il y en a qui n'aiment pas ce terme, des écrivains urbains, je pense à Insassané, toute une génération de gens qui écrivent depuis les années 80, sur ces problèmes-là, de la violence policière, et qui ne sont Mehdi Sharef, etc., et qui ne sont absolument pas connus, parce qu'il y a un moment où on a décidé que ces écrits-là ne pouvaient pas vraiment être pris au sérieux, ne pouvaient pas vraiment être considérés comme de la littérature française, ça va être des témoignages, etc., et qu'on préfère aller prendre un auteur africain du Congo, le faire publier à Gallimard ou le parader sur les plateaux, plutôt que d'écouter un Français qui écrit depuis Champigny-sur-Marne ou qui écrit depuis Noisy-le-Grand ou qui écrit depuis les Minguettes. Donc ça pose la question des voix. Il ne faut pas oublier que les gens sont là. Les gens écrivent et moi on me dit tout le temps il faut donner la voix à ceux qui n'ont pas de voix. Je déteste ce mot. Les gens ont toujours parlé, ont toujours eu une voix, c'est une question d'écouter. Et c'est ça qui se passe maintenant. Il faut changer la perspective. Donc les hommes ont toujours écrit. Il y a une littérature qui vient des banlieues, qui vient de cette génération-là, qui est extrêmement vivante, mais qui n'est pas connue. Ça aussi. Alors là, je donne encore une autre idée de thèse. Il y a un travail à faire dessus. Et pour revenir aux rappeurs, moi, je pense qu'il ne faut pas leur... On a beaucoup d'attentes par rapport au hip-hop, à cause des origines du hip-hop, c'est un mouvement de contestation. Nous, moi, je fais partie d'une génération qui a tout de suite adhéré au hip-hop, parce que même si on a appris l'anglais en écoutant Africa Bambaataa, etc., et en traduisant, on se rend compte, mais en fait, ils parlent des mêmes choses que nous, les fouilles, même si, voilà, après, on ne pouvait pas comparer la situation, par exemple, moi, en grandissant au Minguette, je ne peux pas comparer la situation au Queens du milieu des années 80, mais on retrouve voilà, il y a une gémellité. Et à partir de là, on a ce mythe aussi qui veut que le hip-hop soit toujours de contestation, mais le hip-hop, il peut être aussi festif, et il a le droit d'être festif. Il peut être là pour ne rien dire. Moi, je n'écoute plus de hip-hop, je crois, depuis tout ce que j'écoute, je crois, c'est avant les années 2000. J'ai rien contre le mumble rap, ça ne me dit rien, mais si ça parle aux jeunes qui ont 14 ans, ça leur parle. Donc, de vouloir que tous les rappeurs soient ultra conscients, qu'ils viennent... Non, ils font leur taf, ils essaient de survivre. Après, des gens comme moi, j'ai pu voir en grandissant, IAM, Kerry James, j'en vois plus dans cette génération, et ça pose question aussi. Ça pose question.
Il y a un rappeur qui s'appelle Alpha One et qui vient de sortir une mixtape et tout début il dit j'arrive brûlant comme le pot d'une Mitsubishi. Il n'aime pas les étrangers. Sans les étrangers quoi, il serait encore en train de vivre sous Vichy.
Wow, yeah.
Plus concrètement, je voudrais aborder un dernier sujet avant de poser deux, trois questions précises sur Paris. C'est une critique majeure adressée aux études postcoloniales, c'est de détourner l'attention des problèmes concrets, des conditions matérielles, objectives, pour parler quand même un bon marxiste, de tout miser sur des guerres culturelles et de ne pas vraiment parler de lutte des classes, les vrais problèmes. Que leur réponds-tu?
Pour moi, c'est C'est un peu compliqué de dire une critique que j'ai pour les études postcoloniales parce que c'est comme tout, dès qu'un système se met en place, ce système, il peut être récupéré. On n'est jamais dans une chose, on n'est jamais dans un élément qui est compris de la même façon par tout le monde. Et même à l'intérieur des minorités, il va y avoir tout de suite des intérêts divergents, des intérêts nationaux, des intérêts de classe divergents qui vont faire qu'un groupe peut essayer d'imposer une lecture qui soit plus qui sert plus ses intérêts. Et dans le cas des études postcoloniales, décoloniales, des études culturelles, des études ethniques, etc., on a plusieurs écoles. Je vois par exemple, il y a des chercheurs qui vont dire, voilà, moi je préfère essayer d'aller en sous-marin et puis on ne va pas faire de vagues, essayer au moins de faire de l'entrisme, voilà, entrer dans le système, quitte à ne pas faire trop de vagues. Et puis une fois qu'on aura colonisé le noyau, on ouvre la porte pour une autre génération. Et ce système-là, l'entrisme, ça demande d'évacuer des revendications trop fortes, ça demande d'évacuer son langage. Le langage devra être châtié pour ne pas éveiller les soupçons. Et ça demande aussi de faire une chose qui est extrêmement paradoxale, c'est-à-dire de se décoller, de s'éloigner de son sujet d'étude. Parce que dès que l'on voit qu'on est trop proche de son sujet d'étude, là, on perd la scientificité et on peut être considéré comme un militant activiste. Et là, patatras, ça se casse la gueule. Donc, il y a ça. Et c'est vrai que moi, je te rejoins là, par rapport à ce divorce qu'on a pu voir avec le terrain, par rapport à ce divorce qu'on a pu voir avec les conditions matérielles. Et cette question, moi, je la pose beaucoup dans le travail que je suis en train de faire pour mon prochain bouquin sur la reformulation de la question noire en France par rapport à la question de l'intersectionnalité. De dire, je refuse de parler comme ça dans le vent en me disant, voilà, voici le problème des études postcoloniales. Ce que je veux faire, c'est que je veux ancrer mon propos sur un territoire. Je veux ancrer mon propos sur la France. Et à partir de là, alors l'intersectionnalité, c'est bien sympa, on en parle aux États-Unis, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire matériellement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la France? Aussi bien sur l'Hexagone que dans l'Outre-mer. Et à partir de là, on est obligé d'ancrer le terme sur un territoire. On est obligé d'ancrer le terme sur une histoire du territoire. Et cette histoire du territoire, elle est inséparable des luttes sociales qui ont pu s'y développer, que ce soit des luttes pour l'émancipation des ouvriers, que ce soit les luttes pour l'émancipation des femmes, que ce soit voilà, les problèmes de classe, etc. politiques. Et pour moi, voilà, ça permet de boucher ce que je ne considère pas comme une faute insurmontable des études postcoloniales, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, c'est un champ d'études assez récent comparé à ce que à des champs voisins, donc c'est peut-être une petite erreur de croissance qui peut absolument être je ne vais pas dire qui peut absolument être rectifié lorsqu'on aura de. Parce qu'on a besoin de plus en plus de voix. En ce moment, on a un très petit groupe de personnes au niveau global qui s'attellent à ce monstre dont tellement de facettes sont cachées. Donc, le plus on aura de chercheurs, et je peux même sortir du monde de la recherche, parce que quand tu parles de s'attacher aux conditions matérielles, ça demande un dialogue d'égal à égal et un va-et-vient entre le chercheur et l'extérieur. Et l'extérieur, ben, ce sont les artistes, ce sont les militants, c'est le politique, c'est la vie, c'est la ville. Donc d'instaurer comme habitude vraiment cet échange entre le chercheur du haut de sa tour, de sa bibliothèque et la ville. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable, de me dire, je ne peux pas travailler sur l'intersectionnalité en tant que terme, je dois l'attacher à un territoire, et à partir de là, voilà, voir ce qu'il veut dire pour les gens qui habitent ce territoire. Parce que sinon, on va retomber sur les mêmes travers qu'on essaie de combattre. Parce que aujourd'hui, les mots que je veux secouer, république, universalisme, identité, ce sont des mots qui ont eu un sens, qui ont été ancrés dans les conditions matérielles qui les ont vu naître. La république, elle voulait dire quelque chose pour Aristote. Elle a dit autre chose à Rousseau, et encore autre chose pour les révolutionnaires. Et nous, elle nous dit autre chose. Et si on refuse d'ancrer, on va se retrouver à se balader avec des coquilles vides qui sont utilisés pour dire tout et n'importe quoi. Donc absolument, moi je suis d'accord avec toi, mais je vais être un peu moins dur et dire que voilà, ce sont des petits défauts d'identité qui peuvent de croissance qui sont absolument corrigés avec l'apport de plusieurs voix, de voix de plus en plus nombreuses, de perspectives de plus en plus nombreuses et voilà.
C'est une question qui revient un peu, qui est une critique que j'ai entendue à maintes entreprises, mais qui m'est revenue en fait en lisant, en découvrant Lamine Senghor, qui dans les années 20 représente un peu le premier champion du prolétariat colonial dans l'Hexagone et qui a été membre du Parti communiste, mais qui s'est heurté à plein de limites et de problèmes, même à une époque où le Parti communiste est le premier parti en France à prendre des positions anticolonialistes, les luttes des peuples coloniaux arrivaient toujours en dernier. On parle à votre place, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est aussi, je voulais ta réaction sur cette question-là.
Juste Vas-y. Et je suis absolument d'accord parce que par exemple, lorsque je le vois, même avec des ouvrages assez intéressants qui sont écrits par des personnes que voilà, moi j'ai grandi en lisant, que je porte beaucoup en estime, qui parlent de l'intersectionnalité et ces points, alors qu'on ne peut pas, lorsqu'on ancre ce terme dans l'histoire d'un pays comme la France, qui a décidé que le racisme n'existait pas, que le racisme avait été terrassé, que oh là là, le concept de la race a été à l'origine de catastrophes, de crimes contre l'humanité tels que l'esclavage et la Shoah, et plus jamais nous ne retomberons sur ça, et que tout est classe, et ce n'est que la classe. Et à partir de là, qu'on se permette, qu'on se donne les moyens d'effacer les expériences au jour le jour d'une partie, alors qu'on n'arrive toujours pas à chiffrer d'ailleurs, de la population, c'est absolument, ça change absolument cette manière dont la France est considérée, dont la France est positionnée par rapport non seulement à son approche par rapport au concept de race et aux questions raciales, mais par rapport à sa propre histoire. Parce que ce geste-là, de dire nous avons terrassé le racisme par la parure républicaine, la race n'existe pas, ça a un impact absolument hallucinant sur la production épistémologique et sur notre approche de notre quotidien. Donc c'est clair que oui, il faut l'ancrer sur une histoire de nos territoires. Et quand tu me parles de l'exemple de Lamine, ben oui, des Lamine Senghor aujourd'hui, on en connaît plein, et c'est possible en France à cause de l'histoire française. Donc voilà, il faut toujours planter ses racines et observer, théoriser à partir d'un terrain, théoriser à partir d'expériences, théoriser à partir de vie.
Très bien. Quel est ton rapport à la capitale? Est-ce que tu arrives à avoir un regard touristique, romantique, festif sur la ville, malgré tout ce dont on a parlé juste avant?
Bah oui, parce que je me rends. Paris est une ville que j'aime, tout simplement parce qu'elle contient des gens que j'aime. Je voyage énormément, je voyage beaucoup. Je peux être partie 3-4 fois dans le mois, donc j'ai souvent beaucoup de mal à m'attacher aux lieux, surtout quand c'est des lieux que je visite pendant 3-4 jours, des fois avec un trajet aéroport, l'endroit où je fais une conférence, ouais, ou l'endroit où je fais mes recherches. Donc je n'ai pas beaucoup de, et ça c'est dommage, je n'ai pas beaucoup d'engagement avec la vie, avec les gens. Donc pour moi, il y a trois endroits dans le monde que je considère comme la maison: Fort-de-France, Dakar et Paris.
Oh ouais.
Ouais, Fort-de-France, Dakar et Paris. Et puis dans ce triangle-là, ben c'est Paris, parce que c'est là où j'ai le maximum d'amis, de famille. Donc voilà, c'est la maison. Lorsqu'on pense au concept de home, pour moi, c'est la maison. Et malgré tout ce qui s'y passe, malgré le fait que les gens considèrent encore que ce n'est pas chez moi, mais je fais fi de ce que les gens pensent. Alors, est-ce que j'ai un regard touristique sur la ville? Oui, j'arrive encore à être étonnée de la manière dont je n'existe pas dans cette ville, de la manière dont des corps comme le mien sont absolument invisibles tout en étant partout. Tout en étant partout, parce que c'est le travail de corps comme le mien qui a permis en très grande partie l'érection de tout ce qui fait la beauté, tout ce qui fait l'attrait de cette ville, tous les monuments, tous ces grands endroits, le Louvre, les Invalides. Donc, nous sommes partout tout en étant nulle part. Donc ça, je trouve, alors moi j'ai un regard maintenant, c'est comme, vous savez, les gens qui sont tout le temps très critiques et c'est impossible de regarder un film avec eux, je suis comme ça. Ouais. Il ne faut absolument pas visiter Paris avec moi parce que, ou si je vois, par exemple, hier, un truc tout bête, j'étais dans le bus, je sais plus quel bus c'était, j'allais à Jussieu et je passe devant, vers le Jardin des Plantes et plein de commerces dans le coin portent les noms de Cuvier. Alors il y a la pharmacie.
Cuvier, Buffon, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et donc là, battement de cœur tout de suite, voilà. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui. C'est ça Paris pour moi. Alors ça ne m'énerve pas. Je suis assez bizarre, ça me remplit de joie parce que je me dis, mon Dieu, encore un sujet de thèse, ou encore, là, il va falloir, ou encore un artiste, un jeune artiste afrodescendant à qui on devra confier l'érection de la statue de Sergeant Bartman en remplacement de cette statue odieuse de Cuvier. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, je ne m'énerve pas en marchant parce que je suis quelqu'un de nature assez... Mais je vois la vie, souvent la ville sous un autre regard. Ce que sera Paris dans 15-20 ans quand cette partie de l'histoire-là... Alors, on parle là de l'érection de la statue de Solitude, la pauvre. Moi, j'aime beaucoup, je trouve cette ironie poétique très française. Donc, on a la Solitude qui est toute seule, la seule statue de femme noire. Tout ça, l'ouverture en impasse à Bordeaux. Et l'impasse, l'ouverture. Donc, voilà, je me promène souvent, c'est mon rapport à Paris. Parce que j'ai aussi fait des études en architecture, j'ai une maîtrise en urbanisme. Donc, pour moi, la ville est je le vois comme une toile où on projette l'histoire, où on projette pas seulement l'histoire et le présent, mais le futur. Ce n'est pas vraiment un regard touristique, mais. Je me dis, de la même manière qu'on est en train aujourd'hui de construire des récits plus inclusifs dans la littérature, un récit national plus inclusif dans les livres d'histoire, un récit national plus inclusif, ben, l'espace public est aussi un canevas. Et ce canevas, il devra refléter la diversité des histoires de France. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment, et ça m'arrive tout le temps, les noms de rues. Ou quand je passe devant une rue, par exemple, dans le quartier latin, ben, il nous faudra des rues Émile Césaire ou des boulevards, parce qu'on ne veut plus des impasses et des petites rues ou des ruelles. Voilà, ça, c'est vraiment le rapport que j'ai avec la ville.
C'est quoi ton Paris aujourd'hui? Où peut-on te croiser quand tu es sur Paris?
Ouh là là, c'est... Mon Dieu. Alors, à la BNF ou à Château-Rouge?
Ok. Le grand écart.
Le grand écart, voilà. À la BNF ou rue Mira. Alors, rue Mira.
Ok. Même pas tout, je suis en train de travailler sur un nouveau circuit pour le Paris Noir et ça commence près de l'Assemblée nationale. C'est une visite qui sera sur le statut juridique des personnes noires au 18e, 19e siècle, sur les premiers élus venus des colonies en France. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les murs du Palais Bourbon?
Sur les murs de l'Assemblée nationale.
Ouais, c'est ça.
Alors, on revient, par rapport à l'Assemblée nationale, on revient à la manière dont on fait récit, à la manière dont on fait communauté, et comment on a décidé de ce qui était la France, et comment cette France-là, cette image-là, était représentée par rapport à des moments illustres de notre passé dont on devait se rappeler. Et comment ces moments-là devaient peser sur notre quotidien, parce qu'on passe devant des statues, on passe devant des noms de rue en allant acheter son pain. Et c'est des choses dont on ne fait même plus attention parce qu'ils sont vraiment dans notre quotidien. Et comment ils devaient aussi impacter la manière dont on se lance vers le futur et en pensant à soi comme faisant partie du groupe national. Et ce qui se passe dans cette narration-là, comme je le disais, c'est que cette narration, elle s'est faite au hachoir, en enlevant, comme disait Renan, les choses qui pouvaient affaiblir la cohésion nationale, parce que comme il dit, aucune cohésion ne s'est faite dans la paix. Et pour moi, lorsque je pense à la manière dont dans l'histoire de mon arrivée dans ce groupe national en tant que personne dont la famille est issue du Sénégal, ou l'histoire d'amis que j'ai dont la famille est originaire de la Guadeloupe, de Saint-Domingue, du Mali, de la Réunion, est inexistante dans l'espace national, dans l'espace public, dans le récit national, voire traitée de manière extrêmement insultante, ça interroge. Et je parle de ça parce que pour moi, l'Assemblée nationale, elle renferme plusieurs de ses objets délictueux. Le premier étant l'immense statue de Colbert à l'entrée des lieux, et l'autre étant la fresque de l'Assemblée nationale que je combats depuis 2 ans maintenant avec mon ami Julien Ciodo. Et pour moi, ces deux objets interrogent parce que je me dis, on est dans une histoire qui est tellement peu dite, qui est tellement ignorée. Et pourquoi, lorsqu'on en parle, en parler avec ces objets-là ? Tout en, voilà. Donc, je m'interroge beaucoup sur le choix de ces deux objets, ce que ça dit sur la vision que les personnes qui ont fait ces choix artistiques ont de l'histoire nationale et aussi de la vision qu'ils ont de la participation des Noirs ou des Noirs en France. Donc non, ce sont des objets qui doivent être vus. Alors moi, par exemple, pour la fresque de l'Assemblée nationale, qui est un objet alors c'est un objet que j'ai pu présenter personnellement au Japon, en Angleterre, en Suisse, aux États-Unis, en Italie et partout. La réaction, alors aux États-Unis par exemple ou au Canada, il faut que je prévienne les gens avant de le montrer parce que les gens sont tellement horrifiés. Il arrive qu'on me demande pendant que je parle de l'arrêter parce que les gens sont tellement insultés. C'est vraiment une réaction physique. Et ici, c'est bof. Et ça dit quelque chose sur la manière dont on a pu être dessaisi, dont on a pu extraire en nous la racine de cette histoire-là. Qu'est-ce que ce signe représente ? Pourquoi est-ce qu'il est insultant ? Le fait qu'il soit si peu reconnu en France, ça dit quelque chose. Pas de la faillite de notre système d'éducation nationale. Moi, je dis tout le contraire. De la manière dont elle a réussi, justement, à extraire la racine de ce mal-là, il va falloir qu'on revienne dessus. Qu'est-ce que ces signes signifient ? J'en discutais la dernière fois avec Rokaya parce que au début de, et je vais m'arrêter là parce que ça fait une très longue réponse. Il y a 2 ans, elle était intervenue sur France Culture, une émission, je crois, qui s'appelait Est-ce que l'art peut être raciste ? Où le présentateur avait dit mais c'est de l'humour, c'est de la satire, respirez un bon coup, quoi, vous n'êtes pas très rigolo. Et ça se fait dans c'est tout ce qu'il y a de plus français. Et aussi le fait que les gens, faut pas venir imposer le racisme d'un signe alors que tout ce qu'on voit c'est 2 têtes. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que cette ignorance là, le fait de dire on nous a pas appris à l'école que ces signes étaient raciste comme on a pu l'apprendre avec la swastika, ça dit quelque chose du rôle de l'école. Et aussi le fait de dire, je ne sais pas, par rapport à la fresque, c'est de l'humour, de la satire. Est-ce que l'humour et la satire sont les meilleurs moyens de discuter de la commémoration d'un crime contre l'humanité, surtout quand on peut compter sur les doigts d'une main, dans une ville comme Paris, le nombre de monuments qui sont dédiés à cette cause. Donc voilà, ce sont des questions qui restent ouvertes et le débat est ouvert, bon an, mal an. Donc on continue.
Trop bien. Dernière question, pourquoi faut-il réécouter tout Bob Marley en 2021 ?
Il faut réécouter tout Bob Marley parce que ce sont des pépites, c'est tout le temps des pépites. Moi, c'est quelqu'un que j'écoute depuis 35 ans maintenant. Je suis née avec un père qui était complètement bobbyphile, complètement. Et c'est vrai que j'ai appris l'anglais avec le rap et le R&B à 12-13 ans, mais sans arrêter d'écouter Bob Marley. Et je pense qu'un jour, c'était au lycée, je me suis mise à l'écouter. Mais vraiment à l'écouter, pas seulement entendre la musique, parce que voilà, moi j'ai grandi avec les mélodies, et puis même quand j'ai appris, c'est un travail de réflexion que j'ai vraiment eu par rapport à Bob Marley, même quand ça faisait 6 ans que je parlais l'anglais, mais je n'écoutais pas Bob Marley, j'étais vraiment juste dans les mélodies, et ce que les mélodies me disaient, No Woman, No Cry, et souvent en les chantant en yaourt, même quand je parlais anglais. Et puis, quand j'ai quitté mes parents, en prépa, j'ai eu une année très, très dure, ma première année. J'étais dans un lycée où j'étais la seule noire à Lyon. très dur, où personne ne m'attendait. On me l'a fait comprendre très vite que je n'étais pas chez moi, et ça, ça m'a fait m'accrocher. Et Bob a été vraiment une planche de salut. Et je me suis, j'ai commencé à l'écouter. C'était en 98 et je n'ai plus arrêté. Et en 2020, je l'écoute pour les mêmes raisons que je l'écoutais en 1998, parce que j'ai l'impression que voilà, il y a des chansons que j'ai écoutées 1000 fois. Et au bout de la 1020e fois, j'entends autre chose, j'entends une nouvelle chose. Et au bout de la 1040e fois, et ce n'est, je ne sais jamais quand ça arrive, mais voilà. Donc, il m'est arrivé d'avoir des idées pour des articles, deux ou trois trucs que j'ai fait dans Marianne Noire, c'était après avoir écouté Bob. Donc, c'est vraiment, moi, je dis que c'est une encyclopédie de la diaspora. Et dans ses chansons, voilà, il parle d'Afrique, il parle de la Jamaïque, des Caraïbes, de l'Amérique, il parle d'oppression, il parle de libération, il parle de choses qui traversent toutes les populations noires, donc cette expérience noire commune dans l'Atlantique noire. Et puis même si ça peut être très triste des fois, même si sa vie n'a pas toujours été rose, c'est quelqu'un qui m'inspire parce qu'on se ressemble un peu, d'espoir fou comme ça, et c'est toujours optimiste, toujours. Donc en 2020, il faut écouter Bob Marley, mais pas seulement l'écouter, il faut l'entendre.
Je remercie encore une fois Mamfatou Niang. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux @MariannNoire au pluriel. Et puis pour ce qui est de sa recommandation, évidemment qu'il faut réécouter la discographie de Bob Marley, particulièrement en 2021, alors que l'on s'apprête à commémorer les 40 ans de sa disparition. Et puis puisque l'on parle de penseurs noirs, je ne peux m'empêcher de vous citer un épisode de Throughline, un nouveau podcast américain de la NPR. Récemment, ils ont consacré un épisode entier à Marcus Garvey, un leader jamaïcain-américain des années 20 et 30, précurseur du panafricanisme. Je sais qu'il est controversé, je n'y reviendrai pas maintenant, mais à la fin de l'épisode, qui s'appelle Black Moses, ou le Moïse noir en français, il est établi un lien intéressant et que j'ignorais complètement entre Marley et Garvey.
I was reading this long speech, and towards the end of the speech, I came across this line, this phrase, which looked very familiar. And the line was,
"Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds."
We must emancipate ourselves from mental slavery, because whilst others might free the body, none but ourselves can free the mind.
Redemption song. Un de mes morceaux, sinon mon morceau préféré de Bob, reprend les mots d'un discours de Marcus Garvey de 1937. Ce dernier nous encourage à nous émanciper de l'esclavage mental et affirme que nous seuls pouvons nous libérer. Voilà, je crois que c'est aussi ça les études postcoloniales. Et puis pour finir, Mamfatou a mentionné le triangle et l'hexagone de Mabula Soumaoro. Je viens de le terminer. C'est fantastique, utile et accessible à mettre entre toutes les mains. Il s'agit du récit hybride d'une chercheure qui raconte son odyssée personnelle et professionnelle à la première personne. Il est paru en 2020 chez les éditions de La Découverte et c'est une réponse parfaite à toutes les accusations fallacieuses adressées à ceux et celles qui étudient la race. Le Paré Noir est réalisé par moi-même, Kevin Donna. Le générique vient du morceau Stripes de Maddie Jouwon et l'identité graphique est l'œuvre de Megan Fabre. On revient donc dans quelques jours avec un homme, ça faisait longtemps, un génie. La conversation sera moins politique mais tout aussi nerdy, je n'en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous, mais prenez soin de moi. Partagez, mettez des étoiles, interpellez-moi si vous avez des retours. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours @leparisnoir. Et si vous voulez participer à une balade, envoyez-nous un email leparisnoir@gmail.com. A très vite.